Bonjour et bienvenue à la communauté évangélique de l'Agneau. C'est encore un plaisir de vous recevoir pour qu'on puisse partager ensemble la parole de Dieu. Dans cette parole, il y a plein de belles bénédictions, de belles enseignements, des révélations que Dieu nous a données afin qu'on puisse connaître Jésus, puis aussi son plan merveilleux qu'il nous a donné en nous appelant par le Saint-Esprit pour faire partie de sa famille, puis tout ce qu'il a préparé pour l'au-delà. Mais en attendant, on se concentre sur l'enseignement, sur les choses de notre vie, du moment où on est en train de vivre présentement, et un peu dans l'avenir. Là-dedans, on trouve toutes sortes de révélations que Dieu nous a averties d'avance dans sa parole pour qu'on puisse connaître où ce qu'on en est rendu dans la chronologie des événements de Dieu, parce que Dieu il a préparé, il a prévu des événements qui sont en train de s'accomplir. Puis aujourd'hui, on continue encore à étudier quelques signes qui sont avant-coureurs du retour de Jésus. Vous le savez, on en parle depuis plusieurs semaines, que le retour de Jésus, c'est un point crucial, c'est une grosse prophétie qui est attendue depuis le début de la création, que les prophètes ont parlé à propos du retour de Jésus avec ses saints pour juger la planète, mais aussi pour venir chercher ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église, venir chercher ses enfants avant que le jugement tombe sur cette planète, pour juger l'ensemble de l'humanité. On est en train de faire encore un survol des prophéties du Seigneur qui s'accompliront avant son retour. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Et pourquoi on a besoin de le savoir? Tout simplement parce qu'il faut se préparer. Dans tout ce qu'on regarde, là, la majorité de toutes les prophéties qui sont faites là dans la parole de Dieu, que ce soit par Jésus lui-même ou ses apôtres ou les prophètes, sont presque toutes accomplies. Puis, je crois, puis il n'y a pas juste moi qui y crois, l'ensemble des croyants sur la terre croient que Jésus revient bientôt. Puis on se prépare pour ce grand jour afin qu'on soit pas pris au dépourvu, puis qu'on fasse partie de ceux qui vont être enlevés avec le reste des chrétiens. Merci Seigneur. On est en train d'étudier les prophéties basées sur l'évangile de Matthieu. Puis on va voir là-dedans que Jésus annonça encore une prophétie dans Matthieu 24 en disant que la bonne nouvelle sera entendue parmi toutes les nations, alors cela sera la fin. Dans Matthieu 24, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Voyez-vous, là-dedans, ça nous spécifie des choses très importantes. Premièrement, le devoir qu'ont les chrétiens de partager la bonne nouvelle, de l'annoncer à tout le monde, puis ça nous dit prêcher dans le monde entier. Faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, puis ça c'est dans le but que ça serve de témoignage à toutes les nations. Les premiers disciples ont été envoyés avec le Saint-Esprit. Jésus leur avait dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, puis vous allez être des témoins. C'est ce que ça nous dit dans ce passage-là. La bonne nouvelle va être prêchée afin de servir de témoignage. Puis pour rendre un témoignage, ça prend des témoins. Ces témoins-là, c'est les gens remplis du Saint-Esprit qui sont les témoins pour prêcher la bonne nouvelle partout. Puis là, Jésus nous dit, alors viendra la fin. Donc, il est en train de nous dire que avant que Jésus revienne, faut que la bonne nouvelle soit annoncée parmi toutes les nations. Lorsque Jésus a annoncé cette prophétie, il savait très bien que cette prophétie devait s'accomplir avant son retour. Ça, c'est basé sur des paroles dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 67, les versets de 1 à 4, ça nous dit, « Au chef des chants avec instruments à cordes, psaume, c'est un cantique, parce que les psaumes, c'est des cantiques, c'est des chants qu'on devait chanter. Mais il était inspiré par le Saint-Esprit, puis il y avait un message prophétique dans ces chants-là. Ça nous dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse et qu'il fasse luire sa face sur nous. Pause. L'autre verset dit, « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, parmi toutes les nations, ton salut. » Wow, c'est en train d'annoncer quelque chose. Ça répète une phrase que Jésus a dit. Il dit, faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Là, on parle au verset 2, « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, parmi toutes les nations, ton salut. » Là, ça nous dit, « Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. » Voyez-vous, ça veut dire que parmi tous les peuples, pour que cette prophétie-là soit accomplie, fallait que tous les peuples sur la terre puissent être en train de louer le Seigneur. Puis là, Jésus, c'est pas pour rien qu'il nous a enseigné qu'il fallait que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Fait que, pour que l'autre prophétie dans le psaume soit accomplie, il fallait qu'il y ait des gens sauvés de parmi toutes les nations, sinon, Jésus ne peut pas revenir. C'est pour accomplir cette promesse-là. Puis il y en a d'autres versets qui parlent dans ce sens-là dans l'Ancien Testament. Si je continue, ça dit « Les peuples te louent, ô Dieu ». Ça veut dire tout le monde, il va y avoir du monde parmi tous les peuples en train de louer Dieu. « Tous les peuples te louent », ça dit. Aussi, ça dit « Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse ». Ça parle de toutes les nations. « Car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Tant qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas encore soumis à l'autorité du Seigneur, puis est en train de servir le Seigneur, est en train de louer le Seigneur, Jésus ne peut pas revenir. Sinon, cette prophétie-là n'aura pas pu être accomplie. C'est pour cela que Jésus dit, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée et prêchée dans le monde entier. Pour qu'il y ait des gens sauvés de partout, de tous les peuples, de toute langue, qui s'approche devant Dieu pour louer le Seigneur pour sa grandeur, son salut. Parce que c'est bien écrit que parmi toutes les nations, ton salut. Il fallait que ça soit annoncé puis que tout le monde, pas tout le monde, mais que au moins une et des personnes de chaque nation puissent goûter le salut de Dieu. On peut comprendre aussi, en ayant ces deux idées-là qu'on vient de développer, cette vision-là dans l'Apocalypse démontrant qu'il y aurait sur cette terre un réveil mondial, puis une multitude venant de partout sur la terre. Puis ça accomplirait une prophétie dans l'Apocalypse au chapitre 7, le verset 9. Ça nous dit, « Après cela, je regardais, ça c'est l'apôtre Jean qui parle, il a vu une vision du futur. Je regardais, puis il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Voyez-vous? Il y a un moment donné que cette vision-là va s'accomplir. Des gens sauvés devant le trône de Dieu, puis qui ont été revêtus de robes blanches parce qu'ils ont été pardonnés de leurs péchés, puis ils ont des palmes dans leurs mains. C'est des héros, c'est des gens qui ont triomphé du monde, qui ont su se consacrer au Seigneur. Puis c'est qui ces gens-là? D'où viennent-ils? Ça nous dit que c'est des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Voyez-vous, pour que cette vision-là s'accomplisse, mais il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Dans Marc, ça dit qu'il faut prêcher à toute créature. Toute créature, il faut qu'elle soit consciente du salut, mais il va y avoir des gens sauvés de par toute la terre. Puis ils vont s'approcher devant Dieu et faire partie de cette multitude qui vont se tenir devant le trône. Jésus est en train d'accomplir cela. Il y a des gens présentement de presque toutes les nations qui sont devant le trône, mais ça nous parle qu'il va y avoir de nations, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ça veut dire qu'il y a encore des dialectes à atteindre, il y a encore des tribus à atteindre, il y a encore des peuples à atteindre. Les nations en général sont déjà toutes atteintes. Des gens qui sont sauvés par toute la terre. Puis ça fait partie d'une super belle promesse qu'on peut participer présentement en tant que chrétien, de pouvoir s'investir pour le royaume de Dieu, puis travailler à répandre la bonne nouvelle afin qu'il y en ait de toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation qui viennent puis acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, afin d'être pardonné, puis d'être revêtu de cette robe blanche, puis d'être devant le trône de Dieu. Amen. Jésus, dans son plan, dans son cœur, il a toujours été dans le cœur de vouloir accomplir la volonté de son Père. Fait que Jésus a toujours eu cette vision-là ou cette pensée-là, c'est que le monde entende le message du salut. C'est la mission principale. C'est la mission que Jésus a donnée à son Église, puis il nous demande de continuer d'agir, parce que Jésus l'a fait, il a fait sa part en donnant sa vie sur la croix, il a accompli le sacrifice qui nous permet d'être sauvés. Mais il continue d'agir à travers son Église, parce que son Église s'est formée de gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, puis qui sont des témoins dans ce monde. Puis là, Jésus continue d'agir à travers chacun des membres de son Église, dans le but d'aller chercher encore les dernières brebis qui doivent rentrer dans la bergerie du Seigneur. Jésus, même si nous, on ne peut pas compter les gens qui étaient devant le trône, on ne les connaît pas, Jésus les connaît tous. Puis il savait que ces gens-là l'accepteraient, puis il a été les chercher en envoyant ses missionnaires, ses apôtres, ces gens-là qui sont envoyés pour établir des églises, même dans des tribus éloignées, dans des montagnes, ou que ce soit éloigné dans le bois quelque part. Il doit y en avoir au moins une de sauver, puis Jésus envoie ses disciples, ses missionnaires, dans le but d'aller sauver ces gens-là. Ça fait partie de la mission. Puis l'Église du Seigneur travaille dans ce sens aussi en priant, puis en faisant avancer l'œuvre de Dieu dans l'intercession, en priant pour ces gens-là. On voit dans ce verset, le prochain verset, mais en réalité, c'est dans Marc, l'importance de la grande commission par l'évangélisation. Dans Marc 16, c'est un verset qui est en parallèle avec Matthieu 24, qui nous dit qu'il fallait prêcher dans le monde entier. Dans Marc, ça nous dit, c'est dit dans quelques mots différents, puis il leur dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voyez-vous, prêcher à toute la création, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de gêne de parler à tout le monde. Parler de Jésus, parler de la bonne nouvelle, parler qu'il y a un salut qui a été accompli à la croix. Jésus a accompli ce qui est nécessaire pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés puis obtenir la vie éternelle. C'est extraordinaire de pouvoir participer à cette grande commission. Puis Jésus travaille à travers son Église pour que tout le monde sur cette planète puisse entendre parler de lui et pouvoir accepter Jésus. Puis ça nous dit aussi, faut le dire parce que ça fait partie du texte, Jésus a dit, celui qui croira au message qu'on répand et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez-vous, l'enjeu est important. On ne parle pas juste d'une condamnation, d'aller en prison pour un an. On parle de passer l'éternité, qui est une vie sans fin, séparée d'avec Dieu, à cause que les péchés de la personne sont sur lui. Quand une personne meurt dans ses péchés, elle ne peut plus rentrer dans la présence de Dieu. Elle a absolument besoin, tous ont absolument besoin de passer par Jésus pour naître de nouveau, pour être rempli du Saint-Esprit, puis pouvoir vivre cette vie-là qui est avec le Seigneur. Fait que c'est ça qui est le message de l'Évangile, puis qu'on parle avec assurance dans le but d'amener les gens, vous qui m'écoutez, que vous puissiez rentrer dans le chemin de la vie éternelle qui est Jésus. Lorsqu'on parle du salut, on parle du salut de l'âme. Il faut aussi comprendre l'importance qu'il y a des gens qui allent parler du salut de Dieu. C'est important. Oui, on parle du salut de l'âme, mais il faut que quelqu'un y aille en parler. Il faut que quelqu'un y aille l'annoncer. Tous les moyens sont bons pour répandre la bonne nouvelle. Sans le travail des chrétiens dans ce sens, mais l'œuvre de Dieu n'avance pas. Si les chrétiens ne vont pas évangéliser, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est important ce que je vous dis là. Dieu a fait son plan de façon à utiliser ses enfants, ses disciples, dans le but d'aller répandre la bonne nouvelle. Ça nous dit dans Romains 10, le verset 14 et 15, « Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? » Voyez-vous, c'est important que quelqu'un en parle pour que les gens croient. Faut que quelqu'un en parle. Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment qu'il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voyez-vous, dans ce passage-là, ça dit qu'il est impossible qu'une personne puisse accepter Jésus si elle n'y a pas cru. Puis c'est impossible qu'elle y croie si elle n'a pas entendu parler. Donc, il est extrêmement important que les chrétiens se lèvent et qu'ils aillent porter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus partout dans ce monde. Oui, dans l'endroit où on est premièrement, que ceux qui nous entourent puissent en entendre parler, mais il dit, Jésus avait envoyé ses disciples, ce qu'on a vu dans Matthieu 24 puis dans Marc au chapitre 16, il a envoyé ses disciples avec la mission d'aller répandre la bonne nouvelle, en commençant par Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Fait qu'aujourd'hui, nous sommes rendus jusqu'aux extrémités de la terre. Il reste pas gros de peuples, gros de langues, gros de tribus qui restent à atteindre. Puis il faut se lever les manches puis commencer à aller travailler pour le Seigneur. Utiliser tous les moyens possibles. Radio, télévision, Internet, des pamphlets, du bouche à oreille pour répandre le message partout afin que les gens soient sauvés. C'est important. Sans l'évangélisation de la part des chrétiens, Jésus ne reviendra pas tout de suite. Parce qu'il faut que ce réveil-là soit accompli auparavant. Dans Matthieu 24, 14, on a bien dit, « Alors viendra la fin. » Au moment où la bonne nouvelle aura atteint toutes les nations, « Alors viendra la fin. » Faut pas s'attendre que Jésus revienne sans que les chrétiens soient en train de travailler à évangéliser, puis à atteindre les âmes qui restent à aller chercher. Faut vraiment être dirigé par le Saint-Esprit pour aller être guidé par Jésus, pour atteindre ces gens-là, puis au moment où la dernière brebis prévue va rentrer, Jésus va revenir. On a parlé un peu dans les études antérieures comment ce qui est important qu'on hâte son retour. Mais l'évangélisation fait partie d'une des manières de hâter le retour. On a hâte qu'il revienne, mais il faut se mettre à l'œuvre puis parler du Seigneur ouvertement partout ce qu'on peut. Amen. Dans l'évangile de Marc, Jésus nous dit la même chose, mais en ajoutant que les chrétiens n'ont pas à s'inquiéter du témoignage qu'ils auront à dire, parce que le Saint-Esprit parlera par nous, en nous. Le Saint-Esprit nous accompagne, puis va nous guider dans cette évangélisation-là. Dans Marc chapitre 13, et versets 10 et 11, ça nous dit, « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Puis là, il dit, « Quand qu'on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à leur même, car c'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. » Wow! Ça veut dire que les chrétiens, quand ils sont en train de répandre la bonne nouvelle, il faut que premièrement la bonne nouvelle soit prêchée dans toutes les nations, mais inquiétez-vous pas quand on va être emmené pour témoigner, prendre témoignage. De pas s'inquiéter d'avance de ce qu'on aura à dire. C'est guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous donner à l'heure même toutes les paroles qu'on a besoin comme inspiration pour pouvoir donner aux autres. C'est pas nous qui va parler, c'est l'Esprit Saint. Comme je vous disais tantôt, Jésus veut encore accomplir l'œuvre du salut à travers de nous, en nous utilisant pour aller chercher les derniers brebis qui doivent entrer. Amen. On continue avec une autre prophétie de Jésus concernant la destruction du temple. Parce qu'on continue à éplucher Matthieu 24, puis on avance tranquillement, puis Jésus est revenu avec le sujet de la destruction du temple. Puis c'est mentionné dans Matthieu 24, on l'a lu un peu au début dans Matthieu 24, les versets 1 et 2, au début de l'entretien avec le Seigneur. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent puis en fait remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Au début de la conversation, Jésus leur a dit que tout va être détruit ici. Que ce soit le temple, Jérusalem, puis tout ça. Il n'a pas donné gros de détails au début de la conversation, mais où est-ce qu'on est rendu dans Matthieu 24 au verset 15? Jésus nous commence à nous ouvrir les yeux tranquillement. Il ne nous en donne pas beaucoup, mais il nous en donne assez pour savoir de pour prévenir. Puis Jésus avait donné des avertissements à ses disciples de quoi faire lorsque ça commencerait à arriver, que le temple sera détruit, Jérusalem aussi. Ça, cette prophétie-là, il y a eu l'accomplissement en l'an 70 après Jésus-Christ. Jésus, il sera mort à l'an 33 environ. Puis, à l'an 70, l'empereur romain a investi Jérusalem, puis ils l'ont détruite. Puis, ça fait partie d'une grande tribulation par l'armée romaine qui a envahi Israël pour la destruction de Jérusalem, puis détruire le temple. Puis, le peuple d'Israël, il a été dispersé parmi les nations. Le peuple juif ne devait pas s'en rendre compte ou ne devait pas se douter que ça arriverait. Mais les disciples le savaient que c'était pour arriver, parce que Jésus en a parlé directement à ses disciples. Dans Matthieu 24, le verset 15, ça nous dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Voyez-vous, là, Jésus commence de parler d'une abomination. Une désolation qui était pour arriver à Jérusalem. Puis ça faisait partie des prophéties annoncées d'avance dans le livre de Daniel, le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel avait parlé prophétiquement annonçant la destruction de Jérusalem. Puis Jésus revient avec cette prophétie-là en mentionnant que c'était écrit dans le livre de Daniel. C'est fort. Il dit, vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Si on va lire ce passage-là, Daniel avait annoncé cette parole dans Daniel au chapitre 11, verset 31. Ça dit, des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Voyez-vous, dans ces passages-là, ça démontre clairement, par Daniel, une prophétie venant de Dieu, du Saint-Esprit, puis qui a été repris par Jésus lui-même pour annoncer qu'il y aura une destruction. Premièrement, ça commencera par une profanation du temple, du sanctuaire. Une profanation, c'est de rendre impur. Ils ont fait, comme présenter une statue, ils ont fait des sacrifices d'animaux, de cochons, parce que pour les Juifs, c'était des animaux impurs. Ils ont souillé le temple de toutes les façons, et tout ce qui fait partie du temple, c'était une chose terrible que, déjà que les Juifs rentraient pas dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint, seulement que les sacrificateurs, puis il fallait qu'ils passent par une cérémonie de purification. Puis là, on parle de païens, de gens non-juifs, des gens non-circoncis, puis qui n'étaient pas purifiés, qui ont rentré dans le temple, puis là, ils ont souillé tout ce qui faisait partie du temple de Jérusalem, puis en plus de ça, par la suite, ils l'ont profané en établissant une statue. Puis là, par-dessus cela, puis ils ont fait cesser les sacrifices perpétuels, parce que depuis l'Ancien Testament, depuis le temps de Moïse, il y a des sacrifices qui se faisaient régulièrement dans le temple, que ce soit d'allumer les chandeliers, que ce soit pour mettre des pains de proposition, des pains consacrés à Dieu, devant Dieu. Ils mettaient ça en signe de témoignage devant Dieu. Puis aussi, il y avait aussi le sang qui était emporté pour comme sacrifice. Il y a eu ça à chaque Pâque, à chaque fête, à chaque événement, ils faisaient des sacrifices, plus les sacrifices de tous les Juifs qui voulaient apporter des sacrifices à l'Éternel. Ils allaient au temple. Fait qu'eux autres, ils ont fait cesser le sacrifice qui devait être perpétuel. Beaucoup de sacrifices étaient perpétuels, mais il y en avait certains qui étaient des sacrifices ponctuels, mais tout était arrêté. Il n'y avait plus le droit d'offrir de sacrifice parce que là, l'armée était investie. Puis là, ils ont commencé à tout détruire, le temple, détruire la ville, tuer les gens qui étaient là. Puis Jésus les avait avertis d'avance, puis c'était une grande prophétie qui devait s'accomplir avant le retour de Jésus. Mais elle était accomplie voilà 2000 ans. C'est quelque chose. Puis Jésus a annoncé ces choses-là, puis, pour démontrer comment c'est vrai ce que Jésus dit, les paroles se sont accomplies exactement comme Jésus l'a annoncé. C'est pour ça qu'on remarque que vu qu'il y a des prophéties qui sont depuis le début, qui se sont annoncés, puis tel que c'est annoncé et accompli tel que c'est annoncé, mais ça nous donne l'assurance à savoir que les autres prophéties vont aussi s'annoncer, s'accomplir telles qu'ont été annoncées. Jésus a averti ses disciples. Il dit, quand vous allez voir l'armée rentrer, là, mais là, il lui donne des avertissements, parce qu'il a dit aux disciples de fuir cette attaque. Puis il a prédit un événement terrible pour les Juifs. Dans Matthieu 24, on continue à partir du verset 16 jusqu'à 22. Alors, Jésus qui dit ça à ses disciples, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Puis là, on voit là-dedans que la fuite, c'est salutaire parfois. On n'est pas obligé de rester puis confronter les Romains puis de se battre avec. Mais ça, c'est une manière de parler. On n'est pas obligé de se battre physiquement avec les gens qui nous font du trouble. Des fois, il faut s'en aller. C'est ce que Jésus avait conseillé à ses disciples, plus qu'un conseil. C'est un ordre. Il dit, fuyez. Puis ça, c'est un ordre. Il dit, allez-vous-en. Restez pas là. Il dit que celui qui est sur le toit, descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Tu pars là, puis tu vois l'armée rentrer, tu pars, puis tu restes tout là. Tu te causes pas la tête avec tes biens matériels. Faut penser à la femme de Lot quand c'est le temps de sortir, parce que la ville de Sodome et Gomorrhe était pour être détruite. Ça, il a dit, fuyez, puis allez-vous-en par là-bas, puis sa femme s'est retournée, puis elle a été changée en statut seul. Bien, l'idée, c'est, quand Jésus dit, va-t'en, puis sauve-toi, laisse ton stock-là, c'est ce qu'ont fait les disciples, ils sont partis. Il dit, et que celui qui est dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Voyez-vous, il y avait comme encore un autre détail important là-dedans. Il lui a dit de fuir, mais il lui a dit, avant que ça l'arrive, de prier que ça n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Parce que les jours de sabbat, les disciples, ils n'auraient pas marché cette distance-là. Mais ils auraient pu s'y prier, que qu'ils soient exaucés, puis qu'il y ait leur fuite dans le moment qu'ils pouvaient s'enfuir. C'est ça qu'il faut retenir. Puis même, pas juste en parlant d'une journée de sabbat de différente, même une saison, ça peut être arrivé, cet événement-là, une saison différente, si les gens étaient pour prier pour. Ça veut dire que quand on est conscient des événements qui doivent arriver, ils vont arriver. Sauf qu'on peut prier en tant que chrétien pour que les événements y arrivent dans des moments qui vont nous être opportuns, qu'on va pouvoir trouver même des portes de sortie pour s'en sortir, qu'on peut s'en sortir parce qu'on a prié. C'est ça qu'il faut comprendre, que Dieu nous montre ça là, dans ces passages-là, dans le but à apprendre aux chrétiens à prier déjà pour les événements qui vont venir, les événements qui nous arrivent là maintenant aussi, mais pour les événements à venir, que notre fuite n'arrive pas en hiver, parce qu'il va en arriver d'autres, des catastrophes sur la terre, puis qu'on va en parler un peu plus tard, puis on peut déjà commencer à prier pour qu'on ait la force de tout surmonter, puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je continue au verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, puis qu'il n'y en aura jamais. Jésus a prévu dans cette période-là une catastrophe dans cette ville-là comme qu'il n'a jamais eu, puis comme qu'il n'aura jamais d'autre des aussi pires que ce qu'ils ont vécu en tant que peuple juif. Puis ça dit aussi, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voyez-vous, Jésus a dit que c'était pour arriver, mais il a dit, si ça ne sera pas abrégé, tout le monde sera mort. Tous les Juifs seront morts, chrétiens, pas chrétiens. Mais ça nous dit que à cause des élus, les jours ont été raccourcis, abrégés. L'événement s'est passé plus rapidement, puis ça a pu permettre aux chrétiens d'être sauvés. Parce qu'ils ont prié. C'est ça le secret. Faut prier. Et en réalité, c'est pas un secret parce que la Bible, elle nous le dit tout le long, de prier, puis que Dieu exauce. Mais c'est quand même un secret pour celui qui l'oublie. parce qu'il ne faut pas oublier de prier. Il faut prier déjà pour qu'on passe à travers des événements, puis qu'on ait la force de passer à travers. Mais les Juifs l'ont fait, puis il y a eu des chrétiens qui ont survécu. Ça a permis de continuer à évangéliser le restant du pays, puis même la bonne nouvelle s'est répandue jusqu'à nous qui habitons sur l'autre surface de la terre. On est au côté opposé de Jérusalem. On est arrivé aux extrémités de la terre. Là, il reste que quelques endroits sur la terre jusqu'à la bonne nouvelle n'est pas encore répandue, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Puis aussitôt que la dernière brebis va rentrer, Jésus va revenir. Amen. On continue de parler de ce thème-là, de la destruction de Jérusalem. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 13, verset 14 à 20, ça annonce la même chose que Matthieu. Mais dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, il y a des détails de plus. Luc, chapitre 21, les versets 22 à 24. Il parle encore de cet événement-là, puis comment est-ce que la ville sera détruite, puis que tous les sacrifices seront arrêtés, puis tout ça. Ça nous dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. On apprend encore quelque chose, là. Ça nous dit que le fait que le temple soit détruit, les sacrifices soient interrompus, puis en plus que les Juifs soient persécutés et dispersés à travers les nations, ça nous parle que c'est des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ça veut dire qu'il y avait déjà d'autres écrits dans l'Ancien Testament qui parlaient du jugement des Juifs, du peuple juif, du peuple d'Israël. Il y a des jugements annoncés par les prophètes, puis que c'était annoncé cette dispersion-là. On a vu dans un petit bout dans Daniel, il y a d'autres versets qui nous parlent de des événements fâcheux, mais là, je vous détaille pas tous ces événements-là, mais c'était pour dire qu'il n'y a pas rien de grave, de gros, qui arrive sans que ça soit une raison. Dieu a annoncé d'avance dans sa parole des choses qui doivent arriver, puis elles vont s'accomplir. Puis c'est encore un accomplissement. Le fait que ça soit détruit, c'est un accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament qui parlait de la destruction du temple, puis de l'arrêt des sacrifices, qui était écrit aussi dans Daniel. Je vous encourage à aller lire le livre de Daniel. Il y a des super belles révélations là-dedans. Luc, il ajoute, au verset 23, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. » C'est la même chose que dans Matthieu et dans Marc. « Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » On voit que la grande détresse, la grande tribulation que Jésus a parlé dans Matthieu 24, c'était pour les Juifs à cette époque-là. La celle de Matthieu 24. La Bible nous parle aussi de d'autres qui vont être convertis dans une autre grande tribulation, mais pas celle de l'an 70. C'est une autre tribulation, puis il va y avoir une multitude qui vont être sauvées de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Celle qu'il y a eu en l'an 70, cette tribulation-là, c'est une grande tribulation pour ce peuple. Voyez-vous qu'il y a une nuance? Tandis que la Bible parle d'un temps d'épreuve, un temps de tribulation, qui va venir sur le monde entier. Là, la seule qu'il y a eu dans Matthieu 24, puis dans Marc 13 et dans Luc 21, c'est la tribulation pour les Juifs dans ce temps-là. Ça dit qu'il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Voyez-vous, c'était le fait que le roi, l'empereur romain, le César, débarque chez les Juifs et amène cette destruction, c'était dans le but d'accomplir une colère de Dieu sur ce peuple, parce que Dieu devait châtier les Juifs qui s'étaient pas repentis. Bon, on va le voir, on va le comprendre dans le verset, je continue à le lire. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, puis ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voyez-vous, ce n'était pas le fruit d'un hasard. C'est une réponse à une prophétie. C'est un accomplissement de la colère de Dieu dans le but de juger le peuple juif. C'est annoncé que pour arriver après Jésus, puis c'est arrivé tel que c'est annoncé. C'est écrit dans l'Ancien Testament, répété par Jésus, dit dans d'autres mots, bien sûr, mais ça s'est accompli, puis c'était dans le but de juger le peuple d'Israël, parce que les gens étaient dans le péché. Les gens péchaient contre Dieu, ils ont refusé le Messie que Dieu a envoyé, puis ils n'ont pas voulu croire au sacrifice du Messie. Ils continuent à pratiquer leurs sacrifices dans le temple. Dieu a mis un terme au temple pour qu'ils puissent plus pratiquer les sacrifices. Ça le dit, si on suit l'ensemble, l'idée des versets que je viens de vous dire, la destruction du temple était dans le but d'arrêter les sacrifices de la loi, puis de croire au sacrifice du Messie qui était le sang de Jésus versé pour le pardon de nos péchés. Ça nous dit dans les versets qu'on vient de lire, que les Juifs pourraient être dispersés parmi toutes les nations, puis Jérusalem a été floué aux pieds par les nations. Il y a eu toutes sortes de peuples qui ont été vivre là, puis ça appartenait plus au peuple juif parce qu'ils ont été dispersés jusqu'au temps des nations soit accompli. Ce temps des nations-là est déjà accompli. C'est une autre prophétie, ça, qui est accomplie. Parce qu'en 1948, le peuple juif a repris le contrôle de leur pays. Leur pays leur a été redonné, puis on recommençait à puis ça, je vais en parler un peu plus tard dans la suite de l'étude. Ils ont rebâti Jérusalem, mais la Jérusalem qui attend de nouveau le Seigneur. Mais ils sont pas encore complets dans la révélation, mais ils vont finir par réaliser, parce que la Bible elle dit, ils vont finir par réaliser que Jésus c'est le Messie, puis ils vont avoir une repentance parmi le peuple juif, puis ils vont pleurer celui qu'ils ont percé. Puis ils vont se tourner vers lui pour le recevoir comme leur sauveur personnel, parce que Dieu va leur faire encore miséricorde, puis les attendre à bras ouverts pour les recevoir, pour les sauver. On voit ça dans l'exemple des 144 000 qui vont se convertir. Puis les deux élus, les deux chandeliers, les deux oliviers qui vont prêcher la parole, c'est les deux témoins qui vont être là pour répandre la bonne nouvelle, sauver les Juifs, puis le peuple juif va se convertir, puis le Seigneur va revenir. Amen. C'est ce qu'on souhaite. Je finis avec un dernier verset qui nous parle encore de ces événements-là et du pourquoi que c'est arrivé. C'est Jésus qui en parle. À un autre moment, il a parlé du jugement du peuple juif lorsque Jérusalem sera détruite. Ça, c'est écrit dans Luc au chapitre 19, les versets 41 à 44. Puis je termine avec ces versets-là. C'est Jésus qui parle. Il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Ben, Jésus aime Jérusalem. Il aime Abraham, Isaac, Jacob. Il aime aussi la descendance. Malgré que les gens ont rejeté le Messie, Jésus les aime quand même. Ça y a fait de quoi de voir ça, puis il savait qu'est-ce qui était pour leur arriver. Puis il a pleuré sur elle. Pour verset 42, il dit, « Si toi, aujourd'hui, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Voyez-vous, c'est vraiment une même parole prophétique qui parle de la destruction de Jérusalem. Puis Jésus en donne la réponse dans le bout de phrase qui termine ce passage-là. « Parce que t'as pas connu le temps où tu as été visité. » Ouch! Tous les jugements de Dieu sont abattus sur Jérusalem, puis sa destruction est due parce qu'ils n'ont pas connu le temps qu'ils ont été visités. On parle de quelle visite? C'est la visite du Messie. Quand Dieu lui-même a quitté son trône pour venir en forme humaine, comme un simple homme, comme un bébé, en Marie, il est venu au monde. Puis là, il est venu pour annoncer la mission, toute la parole de Dieu, annoncer les choses qu'on devait entendre, puis il a accompli le sacrifice qu'on s'est pardonné, puis il en est mort. puis ressuscité le troisième jour, comme qu'il l'avait annoncé, puis ses disciples l'ont vu, ont été témoins de cela, puis il a dit à ses disciples, « Allez répandre la bonne nouvelle que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Puis les Juifs de cette époque-là, quand ils ont crucifié Jésus, ont dit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Mais c'est en plein ce qui est arrivé. Quand Jésus a pleuré sur cette ville, c'est parce qu'il était triste de voir comment ce qui était rejeté, lui qui était le Messie, envoyé, promis dans la Bible, pour que les gens soient sauvés, puis les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié, ils l'ont abandonné, puis il est mort. Mais la colère de Dieu est venue parce qu'ils n'ont pas connu le temps où ce qu'ils ont été visités. Ils auraient dû se rendre compte. Il y en a certains qui sont rendus compte, puis ont été épargnés même du jugement de la destruction de cette ville, puisque Jésus les a avertis. Quand vous allez voir que l'armée arrive, sortez, allez-vous-en des montagnes, fuyez. Puis c'est ce qu'ont fait les disciples. Mais les autres qui croyaient pas, puis ont résisté aux Romains, sont tous été massacrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu le jour où ils ont été visités. Je vous pose une question. Le savez-vous que Jésus est venu nous visiter? Que faisons-nous de ce qu'il nous a donné comme message? Est-ce qu'on on y croit? Est-ce qu'on l'a reçu, ce message, de pouvoir être premièrement pardonné de nos péchés, mais de s'engager pour devenir disciple de Jésus? Parce que la Bible a dit que si on croit, on va avoir la vie éternelle, mais si on ne croit pas, on va être condamné. Il faut accepter Jésus comme notre sauveur, s'engager à devenir son disciple pendant qu'il est encore temps. Parce qu'un jour, Jésus va revenir, la porte de la grâce va être fermée, les gens pourront plus se convertir. C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Le recevoir pour être sauvé, puis faire partie de ceux qui vont vivre la vie éternelle avec lui. Je vais faire un appel. S'il y a des gens parmi vous qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel, je vous invite à faire cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu t'a pardonné. Tu es maintenant sauvé, maintenant marche avec le Seigneur, sers le Seigneur, va dans une église évangélique dès que tu le pourras. Va aussi sur mon site publicationévangélique.com, tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis qui vont faire de toi un disciple. Je vous encourage à marcher avec le Seigneur, à persévérer dans ses voies, à rester ferme dans la foi jusqu'à temps qu'il revienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.